Émile ou de l'éducation, écrit par Rousseau, est paru en 1762. Après qu'il ait décrit l'éducation d'Émile dans les quatre premiers livres, il décrit l'éducation de Sophie dans le cinquième. Sophie, future compagne d'Émile, sert à introduire la description de la femme et ses rapports avec le sexe opposé pour déterminer comment l'élever, selon Rousseau. Ainsi, pour commencer, l'homme et la femme font partie de la même espèce. Ils sont physiquement semblables, excepté sur le fait sur ce qui est lié au sexe. Ces différences physiques implique des différences morales, de caractère. Un sexe est audacieux, actif et fort, il veut. L'autre est timide, passif et faible, il résiste peu. C'est une loi de la nature. Partant de ce constat, on pourrait penser que la femme est désavantagée par rapport à l'homme. Pourtant, il se compense dans l'union. C'est parce que la femme a des talents qui pallient à son manque de force. Sans ça, elle ne serait pas sa compagne, mais son esclave. Par la nature, la femme est spécialement faite pour plaire à l'homme. Dans sa faiblesse, elle ne provoque pas l'homme. Elle utilise d'autres moyens pour se défendre. Son charme remplace cette force manquante. En effet, la femme excite facilement les désirs de l'homme et ce dernier a du mal à les satisfaire lui-même. Alors, lui et son plaisir dépendent de la volonté de la femme et cette dernière peut s'en servir pour utiliser l'homme. Voilà pourquoi l'homme est maître que seulement en apparence. De plus, avec le charme s'allie une timidité naturelle qui impose une modération de la force de l'homme. Ensuite, la pudeur de la femme retient son désir. Cela lui permet de toujours repousser l'homme qui la courtise avec une force et un succès différent selon la personne. Elle garde ainsi le contrôle des désirs. Elle le tient par la pudeur et celui de l'homme en le repoussant. Pour finir, la ruse est un talent naturel de la femme. Il faut donc le cultiver. Surtout qu'il dédommage la force qui lui manque. La ruse lui permet de gouverner d'une autre manière, en obéissant comme sa nature le veut. Elle tire parti de l'esprit de l'homme et le met à profit. Dans l'union, les deux sexes se compensent. Et donc une femme est mieux en tant que femme. En effet, dans ce qu'elle fait, la femme a l'avantage. Mais quand elle usurpe ce que fait l'homme, elle est en dessous. Si elle est élevée comme un homme, elle perd les avantages de son sexe et perd donc le contrôle qu'elle avait. Cependant, s'ils se compensent, ils dépendent différemment de l'un de l'autre. L'homme dépend par ses désirs, tandis que la femme par ses désirs et ses besoins. C'est donc à l'homme de donner à la femme, et pour qu'il veuille le faire, il doit juger si la femme est digne. Ainsi, par la nature, la femme est à la merci du jugement des hommes. La réputation a une place différente dans l'éducation des filles, car elle dépend de ces derniers. Pour être jugée digne, elle a différents devoirs à accomplir spécifiques à son sexe. La femme a la capacité de donner naissance grâce à la nature, c'est donc son devoir de s'occuper de la famille, par exemple. Et par ce devoir vient d'autres devoirs. Le rapport à l'infidélité est différent pour l'homme et la femme. L'homme infidèle est barbare et injuste, mais la femme infidèle dissout la famille et trahit en donnant à l'homme des enfants qui ne sont pas les siens. L'homme n'a plus confiance envers sa famille, cette femme n'est pas digne des dons de l'homme. Il faut donc qu'une femme soit fidèle et que tout le monde le pense. Pour cela, elle doit être modeste, attentive, réservée et porter le témoignage de sa vertu. L'éducation de la femme doit la préparer à remplir ses devoirs futurs et à développer ses qualités propres. Leur éducation doit donc être différente de celle des garçons, étant donné qu'ils n'ont pas les mêmes devoirs ni le même caractère. Pour savoir ce qu'il faut renseigner, il faut suivre la nature qui est bon guide. Ainsi, la coquetterie leur étant naturelle et charmant les hommes, il faut leur instaurer dans leur éducation. Pour développer ce goût, on peut donner des leçons comme tenir l'aiguille, ou pratiquer le dessin qui sert à faire des patrons de broderie. Elles apprennent volontairement dans ce cas car elles voient l'utilité future que ces talents auront pour elles. On doit leur apprendre uniquement ce qu'elles voient d'utile et bannir le reste. De plus, la jeune fille est docile. On doit donc accentuer ce trait naturel dans son éducation en usant de plus d'autorité sur elle. La vie de femme honnête est un combat perpétuel contre elle-même. Donc elle doit s'exercer à la contrainte et se soumettre à la volonté d'autrui. Il faut qu'elles apprennent à se vaincre. Par la même raison, elles doivent avoir peu de liberté. Il faut les freiner, les accoutumer à être interrompues pour les ramener à leurs soins comme la nature le veut. Cette contrainte permet à la femme d'avoir la docilité dont elles ont besoin, étant donné qu'elles sont toujours assujetties à un homme. À cette docilité s'ajoute la douceur qu'il faut pour ne pas devenir aigre et opiniâtre, ce qui augmenterait leurs maux. Suite à cette bonne éducation, comme aimer les soins de leur sexe, la modestie, s'occuper du ménage et de la maison, la toilette tomberait d'elle-même. En effet, une simple parure suffit. La parure est un moyen de cacher les défauts, Et le vrai triomphe est de briller par soi-même. Trop de parure, et comme un aveu tacite que la personne ne brille pas d'elle-même, ce qui irait à l'inverse de leur coquetterie. Mais plus important que la parure dans l'art de plaire, c'est la parole. Ainsi, le babil naît plus tôt chez les jeunes filles, et en grandissant, elles ont plus d'aisance à parler. Dans sa parole, elle dit ce qui plaît, elle doit pour ça avoir du goût, et a pour sujet principal les choses agréables. Il faut donc leur apprendre à être agréables, sans mentir et sans grossièreté. Dans leur éducation, il faut également les faire parler pour délier leur langue. Ça leur donne un amusement en même temps que des valeurs morales, des savoirs sur les qualités appréciées par les hommes et la connaissance de la gloire et du bonheur d'être une femme. Cette description de la femme est donc censée donner un modèle exemplaire pour cette dernière afin qu'Émile, l'homme des livres précédents, l'épouse. Je pense qu'un livre unique sur l'éducation de la femme contre 4 livres sur l'éducation de l'homme peut montrer déjà un certain désintérêt de la part de Rousseau sur la question. On peut donc comprendre qu'il a une vision partielle et partiale sur le sujet, qui me paraît donc peu travaillée. Le livre décrit une femme telle qu'il a pu l'observer, et je doute qu'il observait chaque femme qui existait. De plus, il justifie la majorité de ses observations par la nature, souvent sans plus d'explication, ou en disant que c'est pour plaire à l'homme, étant donné que, naturellement, elle dépend de lui. Ses caractéristiques ne proposent donc pas de nuance entre les femmes, ou alors montrent la nuance comme contre-nature et mauvaise, pour elle-même comme pour l'homme. Son éducation est faite pour la préparer à sa vie d'adulte, mais Rousseau la réduit au rôle d'épouse et de mère. Par exemple, si elle peut s'amuser enfant, c'est en réalité pour être robuste plus tard, afin d'être enceinte dans les meilleures conditions possibles pour le bébé. Sa manière d'être et d'agir est conditionnée par les rôles qu'elle a à assumer, son besoin de plaire à l'homme, et non pour elle-même. Cependant, il faut remettre son discours dans son époque. Si quelques-unes de ses pensées peuvent choquer certaines personnes aujourd'hui, ça ne l'était probablement pas dans son temps, surtout dans les classes les plus aisées à qui il s'adressait. En effet, une bonne reine était une femme capable de donner naissance. Dans les familles importantes, il fallait donner un descendant. La notion de vertu était donc également majeure pour cette raison. Ainsi, ce qui faisait un bon parti pour la famille du mari était une femme d'honneur. De plus, elle dépendait réellement de l'homme et devait donc tout faire pour lui plaire. Mais Rousseau justifie cette situation par la nature, ce qui est facilement contestable aujourd'hui. Pour finir, si son traité est fort incomplet, il admet quelques notions assez novatrices pour son temps. Il dit par exemple de ne pas élever les filles dans l'ignorance et uniquement pour le mariage et pour le ménage. Il évoque donc la danse, le chant, l'art de parler, penser, se cultiver. Mais évidemment, il justifie cette prise de position par le fait que les hommes ne veulent pas d'automates. Il explique également que plutôt que de les enfermer dans la maison familiale sans bouger, comme le faisaient certaines familles, il faut les laisser profiter de leur jeunesse et jouer dehors. En effet, si elles le font enfant, elles ne voudront plus le faire adulte et pourront rester tranquillement à la maison toute la journée pour s'occuper du ménage et des enfants. Ainsi, les idées innovent, mais l'explication d'une telle éducation réduit encore une fois l'existence de la femme. Si Émile ou de l'éducation est encore beaucoup lu par les principes novateurs qu'il apporte, dans les 4 premiers livres, le 5e tome est aujourd'hui assez controversé. Pour ma part, il a pu être intéressant à son époque, je suppose, donnant une nouvelle vision de l'éducation des femmes, qu'il appelle à ne pas négliger. Cependant, nombreuses de ces idées sont obsolètes aujourd'hui, et une telle éducation paraîtrait arriérée en notre temps dans de nombreux pays.